Bonjour, c'est Portrait, une émission proposée et animée par Claire-Lise Chaubelet. Chances are... J'ai rencontré Marie-Émile à une conférence. Ben oui, c'était elle la conférencière. Marie-Émile est restauratrice. Restauratrice d'objets d'art, restauratrice de céramique. C'était une conférence absolument passionnante. J'ai été impressionnée par ses connaissances multiples, impressionnée par toutes les anecdotes qu'elle a pu raconter, comme celle du panier avec de la terre. Mais on va vous le dire plus tard, des empreintes digitales, etc. Tout ça, c'est ce que vous allez découvrir durant cette émission. Marie-Émile, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté d'être notre invitée aujourd'hui.
Ben, merci de m'avoir invitée.
Alors, quand on vous rencontre une soirée entre amis, un cocktail, peu importe, et qu'on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous dites quoi ?
Je dis que je suis restauratrice d'objets d'art. Et c'est toujours un petit peu une interrogation pour les personnes qui me posent la question. Ils sont tout de suite fascinés. Ah, c'est quoi ? C'est intéressant. Ça suscite de la curiosité.
Et qu'est-ce que vous leur répondez ?
Ben, je raconte un petit peu mon métier et je leur dis que ça m'intéresse beaucoup, que c'est un métier passionnant, que je... Parfois, j'aime bien dire que je répare les pots cassés, parce que c'est aussi
oui,
ce que je fais.
C'est vrai, j'avais pas pensé à ça.
C'est aussi ça, mon métier. Voilà, alors c'est un métier qui a beaucoup de diversité, finalement. Donc j'ai souvent du mal à tout expliquer dans les compétences.
On a une demi-heure. Hein.
D'accord.
Donc on a le temps. Okay. Enfin non, on n'a pas le temps parce que vous avez des tonnes de choses à nous dire. Donc ça va être difficile de faire le tour en 30 minutes.
Ouais.
Vous restaurez principalement des objets, des sculptures.
Oui, parce que la céramique, c'est un matériau qui touche à beaucoup de typologies d'objets. Et qui a traversé tous les âges. Donc ça peut aussi être des objets archéologiques, des figurines, des lampes à huile, des pots. Ça peut être des sculptures en terre cuite dans des églises, par exemple. Ça peut être des services de vaisselle en faïence du 18e, des sculptures contemporaines. C'est assez varié en taille, en origine géographique et en chronologie, en tout cas dans le temps. Voilà.
C'est pour ça que ce métier vous émerveille.
Exactement, je voyage beaucoup.
Quelle a été la pièce là qui... On n'a pas préparé ça avant, hein. On a préparé l'émission, mais ça on n'a pas préparé. La pièce qui vous a marqué, la première qui vous vient à l'idée quand je vous pose la question, le truc qui vous a ému ou bouleversé ou dont vous avez été très fière de la restauration.
Alors, il m'en vient plusieurs, en fait, en tête. Les petites figurines, des petites figurines en terre cuite qui dataient du 1er siècle après Jésus-Christ, où on voyait des empreintes digitales sur la pièce, les empreintes digitales du potier, qui sont des pièces qui étaient moulées dans des moules, mais on voyait quand même, malgré tout, des empreintes digitales.
C'est-à-dire que le moule était gravé, sculpté avant, et qu'ensuite, on mettait une boule de terre qu'on appliquait à l'intérieur.
Voilà, c'est ça. Enfin, on fait souvent une épreuve. Après, on moule la pièce, et après, ça permet de faire des tirages, plusieurs tirages de l'objet, mais il y a toujours, disons, un prototype qui est lui-même moulé. Mais voilà, et on peut effectivement voir, alors parce que comme j'ai accès aux objets qui sont cassés, je peux voir l'intérieur de ces petites figurines. Et le potier appliquait la terre dans le moule par petites boulettes et forcément imprimait son empreinte digitale. Et voilà, ça sont des choses auxquelles nous avons accès parce que les objets sont cassés et que le public n'a pas forcément accès.
Et ça, c'est bouleversant de voir cette empreinte digitale qui date de plusieurs siècles.
Ah oui, moi, ça me bouleverse. Ça me fait voyager dans le temps parce que je repense à ce potier. Alors, c'était souvent des hommes à cette époque-là qui travaillaient, qui étaient à son ouvrage, qui vivaient il y a 2000 ans. Voilà, c'est...
La plus grosse pièce ou celle qui a le plus de valeur, c'est pas forcément en poids ou en volume, que vous avez pu restaurer pour les musées, pour les institutions patrimoniales, les musées de France, les châteaux, enfin, c'était quoi ?
Alors là, en ce moment, je travaille sur une céramique grecque à figure rouge. Et ce sont des pièces qui sont, qui coûtent assez cher. Enfin, en tout cas, c'est difficile de donner un coût à une pièce de musée. Ce sont des valeurs d'assurance, en fait, qu'on a besoin d'avoir parce que nous, on a des assurances dans, enfin, des, dans nos ateliers. On est assuré pour ces objets-là, donc il faut qu'on les connaisse. Et voilà, ce sont des objets qui peuvent coûter jusqu'à 50 000 euros, par exemple, enfin, qui valent en valeur d'assurance 50 000 euros. Donc c'est quand même un coût. Après, on essaye de ne pas trop réfléchir à tout ça. J'ai l'occasion, moi, ça fait partie de mon métier, de faire ce qu'on appelle des constats d'état. C'est-à-dire, on constate l'état d'un objet avant une exposition. Et après l'exposition, pour voir si tout a, si rien n'a bougé, si l'objet est dans le même état. Et il m'est arrivé de travailler, alors c'est hors de mon champ, disons, hors de la céramique, mais je suis quand même aussi formée pour voir les objets et différents matériaux, connaître un petit peu leur état d'altération. Et dans ce contexte, je travaille pour le Grand Palais, l'ARMN, le Grand Palais, et j'ai pu avoir entre les mains des diamants qui appartenaient à la collection Altani. Et là, c'était des... Je ne préférais pas savoir combien coûtaient ces objets, quelle était leur valeur, parce que ça peut être trop perturbant. Et voilà, ça peut amener à lâcher le diamant au milieu de la réserve.
D'ailleurs, vous m'avez dit, lorsqu'on a préparé l'émission, là, tout à l'heure, dans votre atelier, vous m'avez dit, les restauratrices sont parfois un peu maladroites. Ce à quoi je vous ai répondu, non, c'est pas possible. Quand je vois la précision du travail que vous faites, non, c'est que vous pensez à plusieurs choses. Et vous m'avez dit là...
Ben oui, justement, moi, ma théorie, et je la partage avec des collègues, hein, avec qui on rigole de ça, c'est qu'on est tellement concentré quand on est avec notre objet... que quand on est chez nous, on lâche et on fait tomber les assiettes, on fait tomber les verres, tout simplement, alors qu'on essaye de pas le faire avec les objets sur lesquels on travaille.
Oui, j'imagine bien, oui.
Même si des accidents peuvent quand même toujours arriver, mais voilà, on est très concentré, effectivement. On ne se rend pas toujours compte, d'ailleurs.
Enfin, et vous travaillez aussi avec des particuliers ?
Ça m'arrive, oui, c'est assez ponctuel, ça ne représente pas le gros, disons, de ma clientèle, mais ça peut m'arriver.
Ouais. Alors, votre atelier est rue Louis-Philippe au Havre.
Oui.
Voilà, certains particuliers peuvent venir avec un objet à restaurer. Ça, c'est 10% de votre travail maximum.
Oui, à peu près, oui. C'est pour ça que je suis souvent partie en déplacement et l'atelier est souvent fermé. Les gens s'interrogent sur mais pourquoi c'est souvent fermé. C'est pas que je ne travaille pas, c'est que je suis pas sur place.
Marie-Émile, on va écouter un premier morceau de musique que vous avez choisi. Il s'agit de Tailler la route, parce que justement, vous êtes souvent en train de tailler la route.
Exactement.
C'est interprété par Grand Corps Malade, Gaël Fay et Ben Mazuet.
C'est ça.
Et vous avez choisi ça parce que ça évoque le fait que vous êtes souvent avec, non pas votre sac à dos, mais votre mallette de restauratrice sur les routes.
Et oui, et le sac à dos aussi.
C'est vrai ?
Oui, sac à dos.
Entre deux gros concerts, entre deux courants d'air, entre ceux qui disent oui, qui disent non, j'ai fait l'inventaire. Si rester c'est l'enfer, si partir c'est dans l'air, est-ce que je dois secouer 40 années de ma vie de sédentaire? Et pourquoi je quitterai la vue que j'ai depuis ma terrasse? Elle est très bien ma vue, il est très bien mon quartier. Et pourquoi je quitterai mes potes et mon voisin d'en face? C'est ici que je suis moi-même et serein et entier. Et pourtant ça me tente, et pourtant ça me chante, et pourtant ça rentre pas dans mon schéma et c'est ça qui se tente. Et pourtant je le sens, je le crains, je le fuis et je le veux. Tailler un peu la route avant d'être vieux. Comprendre les couleurs et les douceurs des lointaines chaleurs. Apprendre les lumières lunaires des cités étrangères. Voir avec bonheur comment les enfants dansent ailleurs. Me fabriquer d'autres repères pour quand je ferme les paupières.
Tailler la route. Tailler la route.
Ils ne savent pas que je mords, que ma vie sans le souffre. Je passe en météore quand on passera tous. Je suis fait de pierre granit, mais d'un cœur grenadine. Quand t'effriteras ton shit, moi je taillerai ma mine. Ouais, je taillerai la route. Ici j'ai plus d'attache, j'irai me planquer dans la soute. Si pour moi y'a plus la place, qu'ils aillent gratter leur croûte. Cette bande de fils de lâches, obsédés par leur souche. Moi je suis amoureux du large. Je veux faire des milliers de miles, me languir de mille romans, m'arrimer au rythme, l'enlire en moi la calme et de milliers de mots, admirer le monde, la lune, l'onde de la mer au loin, la lumière de l'aube sur l'eau en naviguant d'île en îlot, éviter les vagues et livrer combat à l'hydre du mal, et j'ai vidé les larmes de longue date, j'habite le large, satisfait de l'or, des jours qui passent pour raviver l'âme, marcher le feu dans la lanterne jusqu'à la libella.
J'aime être seul, partir à la pêche, même si je pêche pas. Partir à la fraîche, moi j'ai la parole sèche. Quand mon apparence triche, je fais pas très bien semblant. Quand mon apparence flanche, je prends pas souvent sur moi. Je prends trop souvent sur ceux qui m'entourent et qui m'aiment. Et pour qu'ils se ressourcent de mes tristes rengaines. Régulièrement je me retire, je pars où je peux dire rien si je veux. Régulièrement je me retire, désolé mais sans rire. Je te dirai jamais, viens si tu veux. Ça veut dire que je t'aime, mais que je me connais. Passer la quarantaine, je vais pas beaucoup changer. Je vais quitter là mes chaînes, là mes chaînes, là mes chaînes. Et quand je reviendrai, là mes chaînes, là mes chaînes, là mes chaînes. C'est que j'aurai voyagé.
C'est Marie-Émile qui est notre invitée aujourd'hui dans Portrait. Marie-Émile qui est restauratrice d'objets d'art, restauratrice de céramique. Est-ce que vous faites ce truc qui est très à la mode aujourd'hui, vous savez, cette restauration avec des filets dorés?
Le kintsugi.
Le kintsugi.
Non, je ne fais pas ce type de restauration parce que c'est très particulier. Ça demande une très grande maîtrise. C'est une technique très, très différente de celle qu'on apprend. On travaille avec de la laque qui s'appelle la laque urushi, et qui vient, c'est une résine en fait, et qui se travaille à une humidité relative importante, qui demande une très, très grande connaissance du matériau. Après, on peut poser de la dorure dessus, faire des dessins. Enfin, c'est très particulier. C'est vraiment une tradition, effectivement, très prégnante au Japon et notamment sur tout ce qui concerne la céramique de la cérémonie du thé. C'est assez fascinant. Mais ça ne se pratique pas, en tout cas, pour les restaurations muséales. On peut être amené à peut-être restaurer les restaurations, les restaurations de ce type. Mais nous, notre politique, c'est plutôt d'avoir des restaurations discrètes.
Réversibles. Très important.
Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas de cette technique, qui, elle, à l'inverse, veut souligner l'accident, veut montrer que l'objet a vécu, qu'il a été cassé et qu'il a continué. Malgré tout, à vivre. Et c'est pas la même façon d'appréhender la restauration. On n'est pas dans de la restauration comme nous on l'entend en fait.
Lors de cette conférence où nous nous sommes rencontrés, Marie-Émile, vous avez raconté une très jolie anecdote avec un panier pour transporter de l'eau.
Oui, alors ça c'était au sujet des premières céramiques. Alors c'est une hypothèse, hein. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément vérifié scientifiquement. En tout cas, j'ai pas les sources, j'ai pas l'article où j'ai pu lire cette question-là, mais l'idée serait que peut-être que la poterie ça aurait été une invention fortuite, la vannerie qui a été pratiquée depuis très longtemps, c'est-à-dire le fait de faire des paniers, permettait de transporter de l'eau, mais on devait tapisser le fond du panier d'argile crue, hein, d'argile en fait, qui permettait d'avoir l'eau qui restait stagnante dans le panier, de contenir l'eau.
Oui, ça tient très bien en fait.
Voilà.
Hein. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les flaques de boue quand il a plu dans la forêt.
Exactement.
L'eau, elle reste en suspens.
Voilà.
Et les animaux peuvent boire.
Tout à fait. Et ce panier aurait peut-être un jour été mis au feu et l'argile aurait cuit dans le feu, dans le foyer du feu. Et la première céramique aurait peut-être été inventée comme ça. Et on a retrouvé, en fait, ça peut être vérifié aussi, puisqu'on a retrouvé des traces de vannerie, l'empreinte de la vannerie sur le côté extérieur de la pièce qui avait été cuite. On a retrouvé des fragments comme ça, en fait. C'est ça qui amène à avoir ce genre d'hypothèse. Mais c'est difficilement vérifiable, ça porte sur des temps très, très anciens.
Marie-Émile, vous avez choisi, comme tous les invités de cette émission, des photos, des objets et des senteurs, ainsi que les musiques que nous avons et allons écouter. Et vous avez choisi cette première affiche. Il s'agit d'une affiche d'une galerie. On est en 2014. C'est ce que vous m'avez décrit comme un sauvage fantasmé.
Oui. Oui, en fait, c'était l'affiche d'une galerie, d'art premier. Alors, c'est marqué art primitif. On ne dit plus ça maintenant. On dit art premier. Et c'est une photographie d'un homme avec les cheveux un peu hirsutes, avec un collier de dents et qui tient une sorte de massue pointue sur les épaules. Il a la peau noire, la photo est en noir et blanc.
Il a l'air déterminé.
Il a un regard extrêmement, déterminé.
Impressionnant, même.
Impressionnant, il peut faire peur.
Il peut faire un peu peur.
Mais moi, je la trouve belle. Je trouve cette photo très belle. Et ça me fait penser à mes premières amours universitaires, qui étaient l'ethnologie. J'ai commencé après le bac par la sociologie et après l'ethnologie. Et encore une fois, ça me fait penser à l'ailleurs, à l'altérité, qui m'a beaucoup, très précocement intéressée. Et à ces études qui ont été passionnantes. Extrêmement passionnante et très enrichissante, et qui, par des détours, finalement, m'ont amenée à la restauration. Le lien n'est pas évident, mais...
Mais non, comment est-ce que vous avez su que vous vouliez être restauratrice ?
Alors, c'est complètement, presque par hasard. J'ai eu la vocation très tardivement. Après une maîtrise d'ethnologie, j'ai cherché ce que je pouvais bien faire de tout ça. On peut être enseignant, on peut être chercheur... On peut faire du terrain très loin en Afrique. En tout cas, j'étais plutôt timorée et je ne m'envisageais pas ethnologue. Et je vais commencer à me renseigner sur les métiers de la conservation, conservateur de musée. Et c'est souvent des concours très difficiles. Donc j'en étais là de mes réflexions quand j'ai travaillé pendant mes études au musée Guimet, qui venait de réouvrir. Et j'ai rencontré une jeune femme qui est toujours mon amie.
Donc vous étiez parisienne à l'époque.
J'étais parisienne, oui.
Et aujourd'hui, vous êtes à Vrez.
Voilà, c'est ça. Je suis revenue en Normandie. Et cette amie qui s'appelle Camille, qui préparait les concours, je l'ai vue préparer les concours, on a discuté, elle m'a expliqué ce que c'était. J'ai eu une sorte de déclic, je dis « mais c'est ça que je veux faire ». Alors, elle m'a dit, mais fais-le, prépare les concours. Je dis, mais moi, je n'ai jamais fait de dessin, je n'ai pas fait d'histoire de l'art. Elle m'a dit, mais vas-y, apprends. Je n'ai pas fait de modelage, mais vas-y, apprends. Et j'ai appris, et j'ai passé les concours, et j'ai réussi.
Vous avez appris à tourner, vous avez appris à faire de la sculpture, de la terre, enfin, du marbre. Vous avez appris finalement quoi ?
Alors, j'ai appris, oui, et j'ai fait un cours de poterie dans mon quartier. Après, j'ai appris à tourner, j'ai fait un stage, mais c'est très, très difficile le tour. Hein.
Ah, ça c'est très difficile, il faut années, un an tous les jours pour arriver
Exactement.
À tourner.
Donc, j'ai appris, j'ai tâté la terre sur le tour, mais je ne sais pas tourner. Mais ça me semblait nécessaire, en tout cas, de pratiquer les techniques pour pouvoir les connaître.
Bien
donc
sûr.
J'ai un peu essayé tout ça, oui.
Et puis, un bol, par exemple, ça peut se faire à la plaque, au colombin.
À la plaque, au colombin, on peut aussi... faire ce qu'on appelle, je crois, un bol pincé. On ouvre la balle de terre, tout simplement. C'est le plus simple, finalement.
Donc la plaque, c'est une plaque de pas trop épaisse qu'on va mettre sur une forme asséchée.
Exactement.
Et puis le colombin, c'est comme un petit serpent
voilà.
qu'on va enrouler au fur et à mesure
tout à
et qu'on va lisser.
Ouais. Et on peut faire des formes très, très grandes et très, très hautes, comme ça.
Si on les fait à la corde, à l'intérieur.
Aussi, ouais. Une autre technique encore, ouais.
Ah ouais. Pour faire des grosses amphores, par exemple, pour contenir le vin. Dans le sud de la France, il y a des potiers qui font ça
oui.
parce que le vin est encore contenu dans ces grandes... C'est ça, hein ? Marie-Émile, vous nous avez apporté des objets professionnels. Un scalpel de chirurgie et une palette avec des petites boîtes de pigments. Alors ça, c'est votre quotidien.
Oui.
Alors pourquoi vous utilisez un scalpel ?
Bah, c'est très pratique. Le scalpel, on peut gratter, on peut cliver, on peut trancher, Bon, c'est un outil qui est très, très pratique. Il y a des lames très différentes. On les choisit en fonction de ce qu'on doit faire. On les adapte et sur le manche, hein, on change les lames comme ça en fonction du travail. Mais on peut parfois aussi travailler sous loupe binoculaire avec notre scalpel à la main et gratter des concrétions sur des polychromies antiques, par exemple. Ça peut être ça. On peut gratter la colle qui déborde quand on a fait un collage. Voilà. Alors, il faut être méticuleux, puis il ne faut pas rayer les surfaces, il ne faut pas arracher, mais c'est un outil très quotidien.
Comment vous avez fait cette formation? Dans quelle école? Enfin, comment ça s'est passé pour vous, pour apprendre comment faire tout ça? Parce que ça ne s'improvise pas.
Alors, moi, j'ai fait une formation à la Sorbonne, une formation universitaire qui s'appelait à l'époque une maîtrise des sciences et techniques, qui s'appelle maintenant un master pro de conservation et restauration des biens culturels. Il fallait faire un entretien, une lettre de motivation, un entretien, passer des petits tests d'habilité. Et c'est une formation que moi j'ai fait en 4 ans, mais qui se fait aujourd'hui en 5 ans, 5 années d'études, pour apprendre la chimie, l'histoire de la restauration, la théorie de la restauration, avoir des ateliers pratiques. Encore une fois, des études très intéressantes.
Les restaurateurs et restauratrices sont regroupés dans une fédération française des professionnels de la conservation et de la restauration.
Oui, c'est ça. C'est une association qui nous représente, qui a d'ailleurs un annuaire sur Internet avec les restaurateurs qui cotisent à cette association, qui sont référencés, qui représentent un peu le métier, qui diffusent un peu au grand public ce qu'on fait et qui peut aussi être dans la protection, dans la recherche d'un titre protégé, par exemple, pour notre métier.
Marie-Émile, vous avez choisi cette seconde photo. Écoutez, moi, je vous propose quelque chose. On va écouter d'abord la musique que vous avez choisie.
Oui.
Et ensuite, on décrit cette photo où vous avez 10 ans.
Oui.
Alors, c'est pas « j'ai 10 ans », là, c'est « les gens qui doutent ».
Tout à fait.
Et en fait, vous m'avez dit que bah voilà, cette chanson, elle parle de vous.
J'ai l'impression.
Ok. Elle est interprétée par Jeanne Chéral, par Albin de la Simone et par Vincent Delerme.
Voilà, c'est une version. Alors, c'est Anne Sylvestre qui est à l'origine de cette chanson, mais j'aime beaucoup cette version.
Et on se retrouve juste après avec cette photo.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et garder le meilleur.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons.
C'est Marie-Émile qui est notre invitée aujourd'hui dans Portrait. Marie-Émile est restauratrice de céramique, principalement de céramique et d'objets d'art.
Oui, objets d'art et objets archéologiques.
Vous avez choisi, Marie-Émile, cette photo. Vous avez 10 ans. Elle est superbe, cette photo, hein. On dirait vraiment la photo d'un grand photographe. C'est vos parents qui l'ont prise ?
Je crois, j'imagine, oui.
Vous avez 10 ans, vous êtes souriante, enjouée, vous avez de l'allant sur cette photo. Vous croyez en vous. Vous êtes accrochée à une corde à nœuds avec une jupe qui vole. Voilà. Et vos cheveux blonds, on vous reconnaît très très bien.
Hein. Ah oui.
Ah oui, oui, c'est, mais, ah oui, complètement. Et alors, pourquoi avoir choisi cette photo-là ?
Eh bien, justement, parce que je suis quelqu'un qui doute beaucoup de moi et qui a souvent des questionnements sur sa légitimité. Cette photo me montre que cette petite fille que j'ai été et que je suis encore... certainement, au fond de moi-même, est aussi capable voilà, de prendre de l'élan et de s'élancer, comme j'ai pu faire, comme je disais tout à l'heure, avec cette formation où je n'étais pas sûre, je me disais j'y arriverais pas. J'y suis allée, j'ai réussi. Et aujourd'hui, après presque 15 ans de métier, ben je me dis que je suis à ma place. Voilà, je me suis lancée et je suis à ma place. Et voilà, cette petite fille, à un moment donné, elle atterrit. Je ne sais pas où elle a été à sa place à ce moment-là, mais elle me fait vraiment penser à ça.
Alors, votre fille a le même âge aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle dit en voyant la photo ?
Je ne sais pas ce qu'elle me dit. Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit.
En tout cas, est-ce qu'elle est enjouée comme ça, elle aussi ?
Oh oui, oh oui, bien plus encore.
Bon, vous lui avez transmis ça.
J'espère.
Vous avez choisi, Marie-Émile, des senteurs. Alors, la première, c'est l'odeur du plâtre.
Oui.
Parce que... Vous dites que, quelque part, vous le goûtez d'avance, ce plâtre. Vous dites que c'est une odeur minérale, froide, pâteuse, mais vous savez que vous allez le travailler, et là, c'est la jubilation.
Ah oui, j'adore ce matériau. C'est un matériau génial. Il est génial à faire. Hein. On a de l'eau, on met la poudre dedans, dans l'eau, et puis on le gâche, c'est le terme qu'on utilise, et puis on mélange, et après, il durcit, il peut être... durcir très vite en fonction de comment on l'a gâché. Et après, on l'utilise beaucoup dans mon métier, en tout cas dans ma spécialité. Et c'est très facile à travailler. Et voilà, ouais, j'aime beaucoup ce matériau.
Si je reste très sage et très silencieuse, je pourrais venir vous voir quand vous travaillez ça dans votre atelier.
Si vous voulez, oui.
Je vous promets, je dirai rien. Pas comme à ce micro.
Pas de problème.
Alors, il nous reste une autre senteur. C'est la senteur des roses. Et j'aimerais bien qu'on termine là-dessus. Parce que c'est une senteur que vous savourez dans le jardin de votre maman ou de votre grand-mère.
Oui, c'est ça. C'est une odeur toujours différente en fonction des fleurs et qui m'émerveille à chaque fois. Même si je la ressens à nouveau, à chaque fois, ça m'émerveille.
Est-ce que vous soufflez dans le cœur de la rose pour faire venir son odeur ?
Non, je ne connaissais pas cette méthode.
Moi, j'ai une amie qui a des roses chez elle. Elle se reconnaîtra si elle nous écoute, qui a des roses merveilleuses chez elle, qui sentent un peu le citron, qui sentent voilà, toutes sortes de choses différentes, comme vous le disiez, les épices.
Ouais.
Et quand vous soufflez délicatement dans le cœur de la rose, vous avez l'odeur qui vous arrive dans les narines.
Oh là là, bah j'essaierai.
Il faut aller tout doucement, mais c'est une merveille.
Oui, j'essaierai.
Marie-Émile, nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous raconter pour terminer ?
Oui, je me souviens avoir travaillé sur la collection Altani dont je vous parlais tout à l'heure, à observer ces objets qui partaient en exposition. Et je me souviens d'avoir regardé une émeraude que j'ai pas l'habitude d'avoir dans les mains, une très grosse émeraude et dans laquelle il y avait des défauts et
des inclusions.
Voilà, des inclusions. Et je pense que c'était à la fin de la journée, j'étais fatiguée et tout d'un coup, j'ai eu l'impression de voir la Voie lactée. Et je me suis dit, mais cette émeraude a été taillée. Il y a quelqu'un qui est allé la chercher dans la mine. Ensuite, elle a été taillée. Elle est composée de carbone, comme cette Voie lactée que j'ai l'impression de voir. Et aujourd'hui, je l'ai dans les mains. Alors, ça peut paraître un peu mystique, ça m'a surpris. Mais c'était fascinant, c'était un super moment.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Et longue route à vous, Marie-Émile.
Ben, merci à vous.
C'était Portrait, une émission proposée et animée par Claire-Lise Chaubelet. Chances are, 'cause I wear a silly grin.